Bonjour à tous. Aujourd'hui, la plus grande crise économique et financière de l'histoire contemporaine, elle commençait à la Bourse de New York le jeudi 24 octobre 1929.
Gathered outside the stock exchange are due to the greatest crash in the history of the New York Stock Exchange and market prices.
D'histoire. Le jeudi 24 octobre 1929, dès le début de l'ouverture de la bourse de New York, 13 millions d'actions étaient jetées sur le marché et perdaient en quelques minutes plus de 30% de leur valeur. C'était le début d'une panique boursière qui allait déclencher la plus grande crise économique et financière de l'histoire. Dans le pays le plus puissant du monde, des millions d'Américains se retrouvaient dans des soupes populaires, tandis que la crise franchissait les frontières des États-Unis, provoquant l'effondrement du commerce international, le chômage de 30 millions d'Européens et la ruine des pays de l'hémisphère sud, exportateurs de matières premières. En favorisant l'arrivée au pouvoir de Hitler et les expansionnismes allemands, japonais et italiens, la crise de 1929 fut aussi une des causes principales du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Mais en octobre 1929 à New York, personne n'en était encore conscient, et quelques jours à peine après le jeudi noir de Wall Street, le journaliste américain Forbes comparait le krach boursier à une simple appendicite.
D'après moi, la panique de Wall Street est passée. Il fallait que ça arrive. La spéculation boursière était devenue insensée. Comme dans une opération de l'appendicite, il fallait qu'on l'enlève. Personnellement, j'ai acheté des valeurs depuis le krach de mardi et enjoint tous ceux qui pouvaient faire de même à acheter sans s'endetter. J'ai confiance.
What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love.
C'était la version originale de Sing in the Rain, chantée par Cliff Edwards en 1929. Jacques Brassol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en sciences économiques à Toulon et auteur d'un livre sur l'histoire des faits économiques au XXe siècle. Alors c'est vrai, vous rappelez qu'en 1929, au début du krach de Wall Street, personne n'imaginait encore l'ampleur de la crise qui commençait. Pour beaucoup d'observateurs, comme celui qu'on a entendu il y a l'instant, c'était simplement une crise passagère.
Oui, parce que les crises sont très fréquentes dans l'histoire du capitalisme industriel. Et la dernière crise, celle de 1921, a été suivie d'une reprise assez rapide, ce qui fait qu'on s'attend à peu près à la même chose. Personne ne pouvait imaginer que les crises pouvaient entraîner la fin du système. C'est bien ce qui a failli se provoquer avec la crise des années 30 qui a suivi.
Et d'abord, aux États-Unis, pourquoi est-ce qu'elle a été grave, cette crise d'abord boursière? C'est qu'elle frappait beaucoup d'Américains. Vous vous rappelez qu'à l'époque, énormément d'Américains jouaient en bourse, de toutes les catégories sociales d'ailleurs.
Eh bien, les Américains ont une vieille tradition de spéculation. Un économiste saint-simonien dès 1830, qui s'appelle Michel Chevalier, rapporte que tout le monde spécule partout dans le pays. Il se passe la même chose dans les années 20, c'est-à-dire qu'on a la grande hausse du marché boursier, le grand big bull market, et une spéculation effrénée. Tout le monde spécule depuis les chauffeurs de taxi jusqu'aux femmes de chambre dans les hôtels, enfin tout le monde. C'est une façon exagérée de voir les choses, bien sûr. La réalité n'est pas exactement celle-là.
Et tout le monde, d'autant plus, vous le rappelez aussi, qu'on pouvait acheter des actions à crédit, qui est un système assez pervers, puisque c'était sans danger. Tant que la bourse montait, on remboursait avec les bénéfices qu'on réalisait en bourse, mais en revanche, c'était désastreux quand ça baissait, puisqu'on vendait précipitamment et ça accélérait la baisse. Et d'autant plus dangereux aussi que les valeurs boursières, Jacques Brassol, dans les années 20, l'augmentation des valeurs boursières était complètement artificielle. Vous donnez des chiffres, vous rappelez qu'entre 1921 et 1929, l'indice des valeurs boursières avait augmenté de 300%, alors que celui des valeurs industrielles, de la production industrielle, pardon, de 50%. C'était complètement artificiel, l'augmentation de la bourse dans les années 20.
Oui, tout à fait. Il se passe la même chose dans toutes les grandes crises spéculatives depuis la crise de l'eau en 1720, c'est-à-dire qu'on a une spéculation effrénée qui dépasse de beaucoup la valeur réelle de ce sur quoi justement on spécule. Et le système que vous rappelez, c'est-à-dire des achats à crédit, permet à tout le monde de déposer par exemple 10% ou 20% de la valeur des titres et à partir de là d'acheter des titres, d'attendre que les titres montent pour pouvoir ensuite rembourser. On a un système de crédit qui se monte sous une forme de pyramide qui va bientôt s'écrouler en 1929.
Et tout reposait donc sur la confiance et elle disparaît en octobre 1929 quand se produit le krach de Wall Street. Écoutez des témoignages de ceux qui l'ont vécu, rassemblés par Stéphanie Duncan.
Un New-Yorkais qui travaille dans une société d'investissement financier se souvient de ce jeudi noir du 24 octobre 1929. « Je me trouvais, dit-il, dans les couloirs de la société, un gratte-ciel situé en face du Stock Exchange. Il était 14h30, j'attendais l'ascenseur. Des messagers impatients préféraient prendre les escaliers de sécurité et se bousculaient sur les paliers. Ils portaient des mallettes en cuir qui contenaient des milliers d'ordres de bourse. Enfin, un ascenseur arrive et le garçon d'étage s'écrie. Le monde entier est en train de s'écrouler et cela vient de là-bas. » Et il montrait du doigt la direction de Wall Street. Et ce témoin ajoute, « Un employé arrive vers nous, le souffle coupé et les yeux exorbités. Un homme vient de sauter par la fenêtre, là, dans le bâtiment en face. Il y en eut d'autres par la suite, dit-il. » Autre témoignage, celui d'un banquier de New York. « En quittant Manhattan, dit-il, j'ai pris le métro et je me suis trouvé dans un wagon plein de femmes qui rentraient chez elles. Des confites, hagardes, les yeux rouges, elles se laissaient bousculer par les heurts du métro, sans aucune réaction. Elles venaient d'apprendre les pertes qu'elles avaient subies. » En ce banquier rappelle que même des Américains modestes, vous l'avez dit, avaient acheté des actions. « Même le liftier, dit-il, le concierge, l'épicier, le coiffeur avaient ouvert des comptes chez nous et les avaient fait drôlement fructifier. Chacun pensait au prix de l'action et ne s'intéressait nullement à son rendement réel. » Alors ce banquier parle du jeudi noir comme d'un véritable ouragan. « Certains de nos employés, dit-il, se sont retrouvés écrasés par les dettes et les brokers ne les lâcheront pas tant que le dernier cent ne soit versé. D'autres sont tombés malades, les nerfs brisés. » Alors, la nouvelle du krach fait bien sûr immédiatement la une des journaux du soir. 5 milliards de pertes, affirme le journal The World. Liquidation hystérique qui prend des proportions de cyclone, impossible à analyser rationnellement. Alors, on cherche les causes du krach et certains journaux accusent l'étranger. Cette baisse, c'est la faute à l'Europe et surtout à la Banque d'Angleterre qui a renié ses engagements en supprimant la couverture or. Elle a exporté son anarchie au cœur de Wall Street. Alors d'autres journaux, au contraire, hein, comme Forbes qu'on a entendu tout à l'heure, jouent l'optimisme, comme le New York Evening Post. Le marché est dans une meilleure santé qu'à aucun moment au cours de ces 6 dernières années. Nous venons de voir les prix les plus faibles et nous ne les reverrons pas de sitôt. Un optimisme que ne partage pas l'économiste du New York Herald Tribune. Les actions vont encore baisser, affirme-t-il. Ni les déclarations optimistes, ni les interviews triomphantes ne rameuteront les spéculateurs à Wall Street. La déroute de jeudi en annonce d'autres.
Oui, il y en aura d'autres, hein, puisque vous le rappelez, Jacques Brassel, le Dow Jones a baissé de 50% en 3 semaines, c'est-à-dire que ça signifie une perte virtuelle de 30 milliards de dollars. Comment expliquer brusquement un effondrement aussi rapide, en si peu de temps, une baisse aussi importante?
Parce que les effets psychologiques jouent dans l'autre sens. Et en fait, la longue période de hausse avec une espèce d'entraînement des gens à la hausse qui pensaient qu'ils pourraient toujours gagner de l'argent, ces effets d'entraînement vont jouer en sens inverse à partir du moment où le marché s'inverse et on a une spéculation dans l'autre sens, si l'on peut dire, avec une baisse continue des cours qui va durer jusqu'en 1931-32. En fait, il faudra attendre 1954 pour revoir le cours de 1929 revenir à son niveau.
En tout cas, le krach boursier de 1929 va avoir des conséquences économiques et sociales catastrophiques aux États-Unis. Écoutez le souvenir qu'en avait gardé Joseph Kessel de passage à New York peu de temps après le krach de Wall Street.
Quand je me suis promené le premier jour dans ce cœur de New York, j'ai vu ce qu'on n'avait jamais vu, c'était par exemple les bread lines. Les bread lines, en anglais, ça veut dire la ligne de pain. Des institutions charitables et la ville de New York elle-même avaient établi partout, et non seulement dans les quartiers excentriques ou populeux, mais dans le cœur, le joyau, le centre éclatant de la ville, des espèces de kiosques où, pour une somme qui alors équivalait à 10 centimes, on donnait une tasse de café et un morceau de pain. Et il faut imaginer des milliers d'hommes et de femmes attendant patiemment leur tour d'avoir cette tasse de café et ce morceau de pain.
What this country is coming to, I sure would like to know. If they don't do something by and by, the rich will live and the poor will die. Doggone, I mean the panic is on. Can't get no way, can't draw no pay. Unemployment getting worse every day. Nothing to eat, no place to sleep. All night long, folks walking the street. Doggone, I mean the panic is on.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la crise de 1929.
Et c'était Hezekiah Jenkins, The Panic is On, une chanson de 1931, lorsque les États-Unis avaient déjà plus de 10 millions de chômeurs. Comment, Jacques Brassol, est-on passé d'une simple crise boursière, même grave, à une crise économique aux États-Unis, puis dans le monde, mais aux États-Unis d'abord?
Eh bien, simplement parce que l'économie américaine était fragile depuis le début des années 20 et la prospérité Coolidge masquait beaucoup cette fragilité. On peut dire d'abord qu'il y avait une fragilité de l'agriculture, les paysans étaient extrêmement pauvres, il n'y avait aucun soutien aux paysans à cette époque, les prix s'effondraient. Ensuite, on a une fragilité industrielle, malgré quelques secteurs moteurs comme la radio ou l'automobile. Le secteur de la mine est sinistré, le secteur du textile est également sinistré. Troisième fragilité du système, l'inégalité massive des revenus. Les profits augmentent beaucoup plus vite que les salaires. Les salariés, sauf dans quelques secteurs, sont de plus en plus marginalisés. Et donc, cette inégalité des revenus provoque une insuffisance de la consommation. Oui, on a une production de masse qui n'est pas compensé par une consommation de masse.
Parce que vous rappelez bien le cercle vicieux aussi, le lien qu'il y a. Évidemment, il y a des banques qui font faillite parce qu'elles ont prêté pour des achats en bourse. Donc, le système bancaire fait faillite. Avec lui, c'est bien entendu le crédit, c'est-à-dire la consommation qui baisse. Les entreprises, pour essayer de faire reprendre la consommation, baissent leurs prix. La baisse des prix n'a pas du tout l'effet escompté, puisqu'au contraire, les gens reportent leurs achats. La baisse de la consommation se poursuit. En fait, la crise, en quelque sorte, se nourrit d'elle-même, puis ça aboutit à un chômage absolument fou, hein, puisqu'on passe en quelques années de 1,5 million de chômeurs à 15 millions, ça décuple aux États-Unis. Que fait le gouvernement de l'époque? C'était le président Hoover, hein, qui était président pendant les trois premières années de la crise. Qu'est-ce qu'il fait?
Mais Hoover n'est pas du tout un ultralibéral, contrairement à son secrétaire d'État au Trésor, Mellon, un grand banquier qui était, selon Galbraith, un partisan passionné d'inaction. Hoover essaye d'intervenir, il prend plusieurs mesures contre la crise, mais c'est un échec. Il ne peut pas lutter contre la crise, il ne va pas assez loin.
Et il n'ose pas toucher au libéralisme en intervenant aussi, il y a ça.
Il intervient dans certains, par exemple, des grands travaux sont lancés. Le fameux barrage Hoover, le Boulder Dam, qui deviendra le Hoover Dam, est lancé. Il décrète aussi un moratoire sur les dettes et les réparations, qui est extrêmement positif du point de vue de la crise. Et il est salué par Keynes, par exemple, comme un acte positif. Donc Hoover essaie d'agir, mais de façon très insuffisante pour enrayer la crise. C'est un homme élu avec une popularité extraordinaire en 1928, qui se retrouve complètement déconsidéré, décrédibilisé quelques années après.
Faut dire qu'il fallait l'entendre, il racontait à tout bout de champ, la prospérité est au prochain tournant, enfin, il était un adepte de la méthode Coué, et puis surtout il laisse le soin aux gouverneurs des États et aux maires des grandes villes de porter secours aux chômeurs.
We want work!
We want work!
We want
work!
Pour au chômage qui sévit durement à Chicago, les édiles de la grande cité industrielle ont décidé de refaire le pavage de plusieurs grandes artères et d'y employer les sans-travail. Mais ce n'est pas seulement pour le maigre salaire qui leur est alloué que tous ces malheureux se soumettent à un travail auquel ils ne sont pas accoutumés. La gaucherie de la plupart d'entre eux en est un témoignage. C'est aussi pour les vieux pavés de bois que la municipalité leur abandonne. L'hiver avance menaçant. Et le froid est un ennemi presque aussi redoutable que la faim.
I ain't got no home, I'm just a roaming round.
Just a wandering worker, I go from town to town, and the police make it hard wherever I may go, and I ain't got no home in this world anymore.
C'est Woody Guthrie, I ain't got no home anymore, je n'ai plus de maison. C'est extraordinaire ce spectacle dans le pays le plus riche du monde, cette espèce de misère aussi que vous décrivez, Jacques Brassol, ces Américains qui vont de ville en ville à la recherche d'un boulot.
Oui, cela est bien représenté dans le livre de Steinbeck, Les raisins de la colère, et le film de John Ford avec Henry Fonda, sur les Hokies, c'est-à-dire les immigrés du Dust Bowl, c'est-à-dire la cuvette de la sécheresse dans les états de l'Oklahoma ou de l'Arkansas. On a des gens qui sont complètement misérables, frappés par la crise et frappés ensuite par la nature, puisqu'il y a des années de sécheresse qui provoquent un appauvrissement incroyable de cette population. Une anecdote raconte qu'un fermier de cette région s'évanouit quand il reçoit une goutte d'eau, et il a fallu 3 sauts de sable pour le réveiller.
Vous avez cité 2 films, mais une chose qui est très curieuse quand je vous ai lu, Jacques Brassol, c'est que la seule industrie qui n'ait pas été frappée par la crise, c'est celle du cinéma.
Oui, les arts sont florissants, il y a un renouveau de l'expression sous toutes ses formes, et bien sûr le cinéma qui devient parlant à cette époque, avec tous les films, par exemple des Marx Brothers qui sont liés à la crise, les films de John Ford qu'on a cités, les films de King Vidor, Notre pain quotidien, qui est un grand film sur l'entraide contre la crise.
Alors cette misère, ce qui est grave, c'est que si la crise de 29 est grave, c'est qu'elle ne touche pas seulement les États-Unis, elle va devenir mondiale. Comment est-ce qu'on est passé d'une crise boursière à une crise économique, vous nous l'avez dit, mais à une crise américaine, d'une crise américaine à une crise mondiale, Jacques Brassol?
Eh bien, parce qu'il y a un assèchement des crédits américains qui allaient vers l'Allemagne. L'Allemagne est la deuxième grande puissance industrielle. L'Allemagne est affectée par le problème des réparations, le mauvais règlement de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles. Et cet assèchement des crédits provoque des paniques bancaires. La Kreditanstalt Vienne fait faillite. Ça entraîne une généralisation des fermetures de banques. Et c'est à partir de là que la crise s'installe. D'autant plus que les gouvernements mettent en place des politiques de déflation. Brüning, par exemple, en Allemagne, juste avant Hitler, insiste sur une déflation complètement absurde pendant plusieurs années, qui ne fait que abaisser la consommation, augmenter le chômage, réduire la production.
Autre chose aussi, vous le rappelez, là c'est de la responsabilité des États-Unis qui en prennent l'initiative, le protectionnisme. Tout le monde se replie derrière ces barrières douanières. D'ailleurs, c'est une des raisons aussi pour lesquelles, par exemple, les pays pauvres, exportateurs vers les États-Unis, exportateurs de café, vont faire faillite.
Oui. Hoover ne s'est pas résisté à la pression des intérêts protectionnistes et il signe en 1930 la loi Hull-Smoot qui va renforcer le protectionnisme. Cela est suivi de représailles par les pays étrangers et donc on a un effondrement massif du commerce international.
Alors tous les pays sont touchés sauf l'URSS, la patrie du socialisme entre guillemets, dont les communistes du monde entier exaltent les succès supposés, une archivina de 1932.
Vous allez entendre Vaillant Couturier, membre du comité central du Parti communiste. Deux mondes, le monde capitaliste, le monde socialiste. Le monde à l'envers, le monde à l'endroit. Dans l'un, le monde capitaliste, une baisse continue du pouvoir d'achat des masses, diminution des salaires, chômage. Dans l'autre, le monde socialiste, une hausse continue du niveau de vie des masses, montée des salaires, pas de chômage. Pas de crise, une production harmonisée à la consommation, dirigée par le prolétariat, avec le développement continu de la technique la plus moderne.
Et oui, la crise américaine fait le bonheur des communistes, les admirateurs de l'URSS pavoise à l'époque. Jacques Brassol, vous dites même d'ailleurs une chose, c'est que ce type de propagande impressionne peut-être les Américains, parce que j'ai appris en vous lisant que 100 000 Américains avaient demandé un visa pour aller en URSS.
Oui, l'Amérique devient un pays d'émigration nette, après avoir été un pays d'immigration pendant des décennies, et on a l'impression que le capitalisme va s'arrêter, que c'est tout un système, toute une civilisation qui s'effondre en 1932-33. Le système est à bout de souffle. On a l'impression que tout va s'arrêter.
Et puis tout va changer aussi, parce que les conséquences sont d'autant plus graves que, vous le rappelez aussi, la crise a favorisé l'avènement du nazisme en Allemagne. Il arrive au pouvoir, Hitler arrive au pouvoir en 33, en même temps d'ailleurs que Roosevelt.
Bien sûr, il y a 6 millions de chômeurs en 1932 en Allemagne. Et le désespoir de la population facilite l'arrivée de Hitler, d'autant plus qu'en 1923, l'hyperinflation avait ruiné les classes moyennes et tourné une partie de la population vers les mouvements extrémistes.
6 millions de chômeurs, je crois, à cause de la crise. Alors, autre conséquence aussi bien d'ailleurs en Allemagne qu'au Japon, ou en Italie, ces trois pays sont tentés par une, qu'on va retrouver d'ailleurs ensemble à la Deuxième Guerre mondiale, sont tentés par une politique expansionniste qui, selon eux, permettrait de résoudre la crise, c'est-à-dire qu'au fond, la crise est à l'origine de la guerre, au fond.
Oui, le protectionnisme exacerbé des années 30, dans les pays qui n'ont pas de colonies, pas de débouchés extérieurs, favorise une agressivité impérialiste. On parle de protectionnisme impérial. Et lorsque vous avez des dictatures au pouvoir, comme en Allemagne, en Italie, au Japon, eh bien, ça se traduit par des annexions, parce qu'il faut aller trouver par la force les matières premières, par exemple, qui manquent et qu'on ne peut plus obtenir par le commerce international.
Alors, en revanche, aux États-Unis, la démocratie tient bon et elle amène même à la Maison-Blanche l'homme qui va juguler la crise, Franklin Roosevelt, que l'on écoute ici le jour de son investiture, le 4 mars 1933.
C'est un jour de consécration nationale. Et je suis certain qu'en ce jour, mes compatriotes américains attendent qu'au moment où je deviens président, je prenne les décisions que nécessite la situation actuelle de notre peuple. Mais d'abord, laissez-moi vous dire ma conviction. La seule chose dont nous ayons à avoir peur, c'est la peur elle-même. La peur irraisonnée et injustifiée qui paralyse tous les efforts pour transformer cette crise en progrès.
C'était Roosevelt le jour de son arrivée à la Maison Blanche, le 4 mars 1933, il a été élu quelques mois plus tôt. Roosevelt pour lequel la crise, au fond, c'est simplement une crise de confiance. Il ne parle pas encore de New Deal, hein, la politique qu'il va mettre en place. Mais d'abord, ce qu'il faut juguler, c'est la peur. Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques Brassol, de ces mots de Roosevelt?
Roosevelt est un personnage extraordinaire. Il est certain qu'il a renversé complètement la situation en quelques jours. On a dit que le capitalisme avait été sauvé en une semaine, en mars 1933, au moment de l'inauguration de Roosevelt. Le pays est complètement atterré. Les banques ferment par milliers. On a une décision qui est prise par Roosevelt de fermer tout le système bancaire pendant plusieurs jours. Il convoque le Congrès et il passe une loi de réouverture des banques, mais avec des conditions de supervision, de sécurité. Et par son optimisme, par son influence sur les masses, les célèbres entretiens à la radio, il arrive à retourner l'opinion et à favoriser la confiance. Les banques qui faisaient faillite par milliers pendant les années 31, 32, 33, eh bien, vont simplement fonctionner normalement. On en a quelques dizaines par an qui font faillite à partir de l'inauguration de Roosevelt.
Oui, on a l'impression que, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais Roosevelt, avant d'être président des États-Unis, était gouverneur de l'État de New York. On a entendu tout à l'heure comment à Chicago, on était venu au secours des chômeurs. Lui a fait quelque chose à l'échelle de l'État de New York qu'il va au fond appliquer à l'ensemble des États-Unis, Jacques Brassol.
Oui, oui. Alors c'est le New Deal avec ces deux grandes vagues. On a le premier New Deal, les 100 jours. On fait référence aux 100 jours de Napoléon explicitement.
Oui, sauf que ça s'est mieux terminé pour Roosevelt. Il a été élu 4 fois.
Ça n'a pas été à Waterloo, on a parlé non plus à Austerlitz quand même, parce qu'il y a beaucoup de mesures contradictoires. Mais les 100 jours voient une avalanche de textes, de lois, de changements lors du premier New Deal en 1933. Ensuite, il y aura le second New Deal qui est encore plus important en 1935. C'est l'avènement de l'État-providence en Amérique.
Oui,
le welfare state.
Oui, alors justement, quand même, pour faire face à cette crise, bon, il aura du mal à le faire, mais enfin, rétablissant la confiance, il va surtout faire intervenir l'État. Ça, c'est vraiment, dans l'économie, ça, c'est vraiment une révolution, surtout à l'époque aux États-Unis. C'est une politique tout à fait différente
oui,
des politiques précédentes.
De grands travaux. On pense naturellement à l'aménagement de la vallée du Tennessee. 25 barrages sont construits par l'État dans 7 États différents. Et on a un changement radical des conditions de vie des gens misérables de cette région. Il s'agit bien d'une intervention de l'État, mais il ne s'agit pas jamais de nationalisation, comme ce sera le cas en Europe, en France, en Angleterre après 1945. Il y a toujours ce respect de la propriété privée, du capitalisme. Il s'agit de réguler le capitalisme et surtout d'assurer la sécurité. S'il fallait retenir un mot du New Deal, ce serait le mot sécurité. Sécurité pour la protection des chômeurs, sécurité pour les gens âgés, sécurité pour les syndicats qui ont le droit d'être fondés librement, sécurité pour les banques, sécurité pour les opérations boursières. Le New Deal a échoué dans ce sens qu'il n'a pas réussi à relancer l'économie. En 1938, il y a encore 19% de chômeurs aux États-Unis.
Oui, oui.
mais il a réussi par la transformation des structures du capitalisme. On entre dans le capitalisme du XXe siècle, en fait, avec le New Deal.
Puis il a jugulé quand même, d'une certaine manière, il a empêché la crise de s'aggraver encore, si elle pouvait s'aggraver, notamment en faisant quelque chose qui est toujours d'actualité. C'était la relance, au fond, de l'économie par la consommation. Il injecte de l'argent, tout de même, dans le système, de manière à relancer la consommation.
Oui, mais Roosevelt est un traditionaliste dans ce sens. Il est partisan de l'équilibre du budget, et il n'écoute pas tellement les conseils de Keynes. Il reçoit Keynes à la Maison Blanche et l'entretien se termine de la façon suivante. Roosevelt dit: je n'ai rien compris à ce que disait cet homme, c'est plus un mathématicien à mon avis qu'un économiste. Et Keynes dit en sortant: vous savez, votre président, il n'est pas très littérate, lettré, cultivé au plan économique.
Jacques Brassel, en deux mots, est-ce que 74 ans après on peut dire que le monde est à l'abri d'une crise aussi grave que celle de 29?
Je pense que oui, parce qu'il y a trois erreurs fondamentales qui ont permis de transformer une crise cyclique en une dépression durable. D'abord, pas de politique budgétaire de relance, des politiques de déflation. Ensuite, pas de politique monétaire expansionniste, au contraire, maintien de taux d'intérêt élevé. Et surtout, la grande erreur, c'est le renforcement du protectionnisme. Dans la mesure où on conserve le libre-échange et on ne va pas dans les... risque protectionniste, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risques qu'une crise pareille se reproduise.
Merci Jacques Brassel. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'une histoire des faits économiques, une histoire en trois volumes, dont le troisième vient de sortir chez Armand Collin, donc, de la Grande Guerre au 11 septembre, et c'est dans ce livre donc que...